Il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, y aquí estoy. Alístense grafiteros, en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza.
Bonjour, bonjour. Vous êtes sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, dans l'émission Langue de fronde. Aujourd'hui, on va vous parler d'écoféminisme avec nos deux invités Isabelle Cambourakis.
Bonsoir.
Et Émilie H.
Bonsoir.
Et avec nous aujourd'hui, on a aussi Théo.
Bonsoir.
Léa, Olga à la technique.
Et Clarisse.
Bonsoir. La semaine dernière, Fréquence Paris Pluriel a organisé une semaine radiophonique sur le thème du microclimat, avec des débats, des échanges et diverses contributions au thème du microclimat. L'émission Langue de fronde avait choisi de vous présenter un extrait d'une conférence très intéressante intitulée « La Terre du point de vue des femmes », dans laquelle une de nos invitées d'aujourd'hui, Émilie H, intervenait. On va poursuivre aujourd'hui dans notre lancée. Et donc, écoféminisme, c'est un bien joli mot, qui surtout renvoie à un mouvement politique qui naît aux États-Unis dans les années 80. Le mot écoféminisme, lui, est apparu en France à la fin des années 70. Enfin, si vous pouvez me contredire, si vous
en
voulez.
En 74.
En 74. Et donc, c'est autour de ce mot et de ce mouvement politique que va tourner notre émission aujourd'hui. Définir l'écoféminisme, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant toute une heure avec Isabelle et Émilie. Mais pour donner une petite idée de départ, l'écoféminisme, c'est bien des textes et des mouvements, des luttes, qui relient l'exploitation de la nature ou de la terre par l'espèce humaine et les différents rapports de sexe et de classe. Une sorte de connexion entre la domination des hommes sur la nature et des dominations patriarcales ou... On reviendra dessus plus précisément tout au long de l'émission. Mais pour commencer, donc, on va entrer avec nos deux invités, donc Isabelle Cambourakis, directrice de la collection Sorcières aux éditions Cambourakis, chroniqueuse de la revue Silence, qui travaille sur écologie et féminisme, notamment en France dans les 70, dans les années 70, et Émilie H, philosophe de l'Université Nanterre, qui travaille aussi sur l'écoféminisme, ça tombe bien. Et donc, pour commencer, on va essayer d'entrer un peu dans le concret directement, et je vais vous demander, Isabelle et Émilie, quand je vous dis écoféminisme, il y a sûrement un milliard de choses qui vous passent par la tête, mais si vous deviez nous donner, pour commencer, un nom, ou un lieu, ou une lutte en particulier qui vous ont particulièrement marqué, de quoi est-ce que vous auriez envie de nous parler pour commencer? Isabelle, Émilie.
Allez, Émilie.
Ok, je me lance. Alors, comme tu as... Je peux te tutoyer?
Oui, bien sûr.
Comme tu as commencé par parler d'un nom, je vais partir de là. Je vais partir de là, en regardant le micro pour être entendue. Et donc, je voudrais parler juste très rapidement de Starwo, qui est une des grandes militantes, une des grandes, on pourrait dire, mères fondatrices, pour le dire comme ça, de l'écoféministe qui s'appelle Starhawk, qui est évidemment un nom qu'elle s'est elle-même donné dans les années 70, et qui est une des écoféministes qui se réclame sorcière, et qui, je voulais la prendre, elle, comme figure intéressante, outre tout le travail politique et théorique incroyable qu'elle a fait, mais aussi parce que on peut souvent avoir l'impression aujourd'hui, en tout cas, que l'écoféminisme c'était il y a longtemps, ou en tout cas dans les années 80, et que c'est fini. Mais elle, c'est pas fini. Et c'est pas la seule, mais elle est toujours aujourd'hui, en train de lutter et de faire des rituels sorcières.
Isabelle ? Alors, moi, je voulais parler du coup de quelques actions rapidement, pas trop rentrer dans le détail, mais pour montrer qu'il y a une vraie richesse des actions dans les années 80, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Donc, un des moments fondateurs, c'est l'occupation d'un lieu qui s'appelle Greenham Common, qui était un lieu en Angleterre où ils devaient recevoir, où ils ont reçu des missiles nucléaires. Et donc, des femmes ont occupé ce lieu pendant une vingtaine d'années quand même en non-mixité. Donc ça, c'est une des actions les plus importantes quand même des actions écoféministes anglo-saxonnes. À la même époque, il y a d'autres actions aussi aux États-Unis, dont une dont j'avais parlé une fois en venant ici, quand on avait fait une émission sur les sorcières, et une action qui s'appelle Women's Pentagon Action, où des femmes ont encerclé le Pentagone, là encore, pour s'opposer à la course aux missiles, à la course à l'armement nucléaire, etc.
C'était en quelle
année ? Des années 80. Je voulais aussi parler d'une action qu'on connaît moins, bon, non pas qu'on connaisse celle-ci, hein, mais en tout cas dont on parle moins, qui est plutôt à la fin des années 80, cette fois qui est en 87, et une action qui s'est passée encore autour du nucléaire, parce que ça s'est passé dans le Nevada, là où les États-Unis faisaient leurs essais nucléaires. Ils ont continué leurs essais nucléaires dans le Nevada jusqu'en 1994, et il y avait des actions régulièrement. Et en 87, il y a eu une action qui s'appelait The Mother on Other's Day. Donc c'était pour la fête des mères, mais du coup ça a été justement transformé en la fête des mères et des autres. Et participait à cette action tout un groupe de femmes, de lesbiennes, d'universitaires de Santa Cruz, qui s'appelait Surrogate Others. Surrogate Mother en anglais, ça veut dire les mères porteuses. Et donc elle se définissait comme Surrogate Other, celle qui porte autre chose, et faisait partie de ce groupe affinitaire de Santa Cruz, des universitaires très importantes aux États-Unis, et notamment Donna Haraway, qui, par ailleurs, a écrit le fameux manifeste Cyborg. Et donc, je voulais insister aussi sur l'idée le fait que Donna Haraway, qui est vue comme, qu'on appelle trop rapidement cyberféministe, qui a parlé de tous ces cyborgs, etc., participait pleinement avec d'autres féministes américaines de ce mouvement écoféministe. Donc on a eu tendance à les opposer après, mais je tenais dès le début à rappeler cette action de 87 pour montrer qu'en fait on participait à ces actions écoféministes anglo-saxonnes. Toute une génération en fait de féministes américaines, d'universitaires, etc. Voilà. Donc
merci
quelques
beaucoup.
Actions.
Ouais, très intéressant. Je pense qu'on va d'ailleurs reparler un petit peu de tout ça, surtout aussi de Nora Webb, peut-être plus précisément. Enfin, quelques points. On va pas faire une revue exhaustive de tout ça. On va peut-être entamer notre discussion et.
Et donc aussi voir comment vous travaillez ensemble. L'une plutôt comme éditrice, l'autre plutôt comme auteur.
Et oui. Je voulais parler peut-être faire une petite vous avez déjà commencé, mais recontextualiser un petit peu donc l'écoféminisme, parler concrètement qu'est-ce que c'est en prenant peut-être un exemple. Alors je ne sais pas si Greenham Common c'est peut-être l'exemple que vous avez envie de suivre ou un autre. Et voilà, de dire qu'est-ce que c'est qu'un mouvement, c'est surtout donc ce qu'on a dit, un mouvement politique, c'est un mouvement d'idées, mais donc. Concrètement, comment ça s'est créé, qu'est-ce qui s'est fait en fait, et voilà, qu'est-ce qui a abouti en fait d'un de ces mouvements. On va pas parler de tous parce qu'on n'aura pas le temps.
Et en quoi ils sont revendiqués comme écoféministes justement, enfin, pourquoi cette revendication-là?
Alors, allons-y. Donc, c'est une histoire qui commence. Alors, Émilie m'arrête dès qu'elle a envie de dire quelque chose, parce que quand je commence à parler, je m'arrête plus. Donc, ça a commencé dans les années 70, c'est-à-dire que le mot lui-même, écoféminisme, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, est un mot qui est inventé par une Française qui s'appelle Françoise Daubonne. qui est surtout extrêmement active dans les milieux gays, homosexuels, en France dans ces années-là, dans les milieux féministes aussi, un peu dans les milieux écologiques, beaucoup dans le milieu libertaire, et qui est extrêmement prolixe et donc à cette époque invente un terme qui s'appelle écoféminisme, où elle met ensemble, où elle analyse ensemble une double oppression dont tu parlais tout à l'heure, l'oppression sur l'environnement, la nature, et en même temps l'oppression donc du même patriarcat sur le corps des femmes et sur la reproduction, etc. Donc ça, dans les années 70, en 74, il y a un mot qui débarque un petit peu, mais de façon très marginale dans certains espaces en France, et qui ne fait pas florès, c'est moins qu'on puisse dire, puisque personne en France va réellement reprendre cette terminologie d'écoféminisme pour mille raisons, bon, on n'a pas forcément le temps de débattre là. Et par contre, on retrouve ce mot assez rapidement aux États-Unis, et là, on le retrouve notamment appliqué à des modes d'action, en fait. Donc là où il semble assez théorique dans la bouche de Françoise Debonne, qui par ailleurs était dans le milieu, enfin faisait des actions écologiques en France, en tout cas anti-nucléaire à cette époque. Mais malgré tout, c'est très théorique. Tout de suite, il est appliqué, mis en pratique, en fait, ou utilisé. Par des femmes, des féministes qui font des actions aux États-Unis à la toute fin des années 70 et au début des années 80. Voilà, qu'est-ce que je peux...
Un détail de...
Oui, il était... En tout cas, moi, la première occurrence que je connais, c'est dans un texte d'une nana qui s'appelle Mary Daly, dans un livre qui s'appelle Jean Ecology, et qui date, je veux dire des bêtises, j'ai pas les dates en tête, mais 76, quelque chose comme ça. Mais qui l'utilise apparemment aussi dans ses cours. Alors, Mary Daly, c'était une théalogienne. Donc, c'est ce mouvement qui n'existe évidemment pas du tout en France, qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme si on parlait chinois ou japonais ou je ne sais pas quoi d'ailleurs. À savoir que, en gros, une partie des écoféministes ont fait un peu ce que les féministes ont fait, et ça, c'est plus connu pour la psychanalyse ou aussi pour l'anthropologie, à savoir qu'elles ont eu un rapport critique à tous les textes spirituels et religieux, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, on va dire. Et en considérant qu'on pouvait aussi garder ce qui se passait là, mais en inventant une version féministe. Donc c'est dans un texte, aussi étrange soit-il pour nous, ce qu'on n'associe pas non plus forcément l'écoféminisme à ce genre de pensée ou ce genre de texte, qu'apparaît apparemment, mais peut-être que voilà, il faudra encore chercher, mais qu'apparemment c'est la première occurrence, d'abord dans un cours qu'elle fait, je pense que c'est un cours de religion, de théologie, mais enfin comme les disciplines ne sont pas les mêmes non plus, aux États-Unis, ça peut être un cours d'histoire, de la conscience, un cours de ce qu'on veut, et qu'ensuite on le trouve aussi dans ce texte-là.
Et il y a un lien après entre ces textes, donc soit Françoise Debonne, soit le texte de théologie dont tu viens de parler, et après les mouvements anti-nuc ou Greenham Common qui se jouent. Est-ce que c'est les mêmes personnes, ou en tout cas est-ce que c'est des personnes qui ont lu ces textes-là, qui ont développé du coup, les modes d'action, et quels
Alors,
modes d'action
Alors déjà, il n'y a pas du tout de lien, évidemment, spirituel ou religieux, avec le terme qu'avait proposé Debonne, puisque ce n'était pas du tout sa came. Mais en attendant, des fils qui peuvent être tirés. Et ensuite, oui, dans le sens, par rapport à la deuxième partie de ta question, au sens où ce texte de Mary Daly, je pense aussi à un autre texte d'une nana qui s'appelle Suzanne Griffin, qui a écrit un texte qui s'appelle Woman and Nature, qui ne sont pas des textes écoféministes en tant que tels, qui ne vont pas eux-mêmes se nommer écoféministes, sont des textes qui pourtant ont été, on va dire, source d'inspiration fondatrice pour les mouvements qui vont eux-mêmes se dire quasiment simultanément ou à un an près, deux ans près, écoféministes. Underwear.
flesh, plutonium. Rude havoc warmonger, plutonium. Devil's work, plutonium. You born of Neptunium, born of distant dark planet names. Mega, 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 mega.
Concrètement, par quoi ça a commencé, ces mouvements écoféministes ? C'est des femmes qui sont réunies
Alors, je, 2 minutes, puis je repasse la parole à Isabelle pour ne pas la monopoliser non plus. En fait, en gros, si je ne dis pas de bêtises, ce mouvement qui va s'appeler écoféminisme, mais qui ne s'est pas d'abord appelé, ce n'est pas d'abord de la théorie qui va s'appliquer, c'est d'abord un mouvement qui vraiment émerge ad hoc, grassroots. Il émerge vraiment du mouvement pacifiste qui était contre notamment contre la guerre du Vietnam, et ce sont d'abord des femmes qui étaient dans ces mouvements contre la guerre du Vietnam qui vont quasiment simultanément, mais on comprend bien pourquoi, parce que Hiroshima, parce que Nagasaki, vont ensuite se porter, enfin militer contre le nucléaire, et notamment le nucléaire militaire. Et en fait le lien il est là. Donc c'est le début de l'écoféminisme, c'est vraiment vraiment un mouvement anti-militariste et complètement pacifiste. Donc entre guillemets le glissement, en tout cas le début de l'émergence de ces mouvements-là, il vient de là, et donc c'est des nanas qui vont se réunir au moment où sur le sol américain vont se fabriquer les premières centrales nucléaires et les premiers centres de recherche pour le nucléaire militaire, etc., etc.
Et est-ce que dans ces mouvements, on retrouve donc des modes d'action communs, que ce soit tout à l'heure, Isabelle, tu parlais d'occupation, de terrain occupé pendant 20 ans en non-mixité. Est-ce qu'il y a des modes d'action écoféministes privilégiés ou qu'on retrouve ?
Du coup, comme ce mouvement est très lié au mouvement pacifique et au mouvement anti-nucléaire, il se construit beaucoup autour de la pratique de l'action directe non violente et la désobéissance civique. Donc c'est vraiment, il est pétri de cette culture et de cette grammaire de lutte, comme on dit. Donc effectivement, c'est constitutif du mouvement. C'est-à-dire que les actions sont faites à partir de majorité de personnes qui sont déjà, qui pratiquent déjà le consensus, tout un tas de pratiques qui sont liées notamment à ce mouvement très anti-nucléaire, anti-militariste, etc. Alors ça, c'est les pratiques de décision. Et aussi, donc, c'est beaucoup essentiellement des occupations, des encerclements.
Des encerclements de...
Par exemple, du Pentagone, encerclé. Et aussi beaucoup, peut-être qu'Émilie voudra revenir dessus, des happenings. Et donc, il y a un côté aussi très, très festif. Donc, il y a et un côté désobéissance civile, occupation, donc c'est-à-dire être présent avec son corps. Et c'est des mouvements qui ont été quand même massivement... réprimé dans le sens où il y a eu des milliers de gens, si on additionne tous ceux toutes les actions qui ont été en prison suite à ces actions. Donc et c'est être présent avec son corps, faire des occupations, etc. Et en même temps, c'est donc un mouvement où il y a beaucoup de happening, de danse, de fêtes, de chansons, de musique. Donc on le voit à Gunham Common où pendant 20 ans, oui, c'est sûr que c'est pas une occupation de 20 ans où il faut bien s'occuper pendant 20 ans. Enfin, c'est pas les mêmes personnes qui sont là du début jusqu'à la fin des occupations. Mais en tout cas, c'est aussi des actions où il y a un fort... Il y a beaucoup de... Un aspect culturel est très important aussi, l'aspect festif. Et notamment dans Women Pentagon Action, il y a tout un... une scénographie en fait de l'action. Donc il y a un moment où on salue, où on, enfin c'est pas, le mot n'est pas exact, mais les morts, j'allais dire les morts du climat, les morts qui ont été dus justement aux guerres, etc. Il y a un moment donc qui est le moment de la colère. Il y a, alors ça justement c'est déjà sur les émotions. Mais donc il y a plusieurs moments comme ça, c'est très scénographié. Ils utilisent des grandes marionnettes. Enfin il y a, donc c'est des actions aussi par ailleurs qui sont très festives. Donc avec une grammaire, comme on dit, très, très particulière et qu'on retrouvera ensuite dans les mouvements altermondialistes et jusqu'à présent, y compris ces dernières semaines, dans les semaines sur la COP 21, pardon.
Merci.
Oui, juste pour peut-être compléter ce qu'on en dit sur ces mouvements-là, moi je suis frappée aussi par la... Alors, je ne connais pas forcément parfaitement bien les mouvements qui les ont précédés, notamment anti-militaristes, dans leur mode d'action et dans ce qu'ils ont pu inventer. Mais si je dis pas trop de bêtises, j'ai l'impression qu'ils ont été, eux, particulièrement inventifs. Et notamment, peut-être liés... Enfin, ça pourrait s'expliquer par le fait que c'était beaucoup de nanas qui venaient pas forcément de partis, qui étaient pas forcément syndiquées, donc qui étaient pas liées à, enfin voilà, c'était pas par le haut qu'on allait proposer ou qu'on allait décider de la manière dont ces mobilisations allaient se faire, mais c'était vraiment par le bas. Et que ça s'ajoutait, pardon, une temporalité tout à fait spécifique liée au type de lutte qu'elles menaient, à savoir évidemment une lutte contre ce danger délirant qu'est le nucléaire et qui les amenait, pour moi en tout cas, aussi bien dans leur texte que dans leur façon de se mobiliser, à faire preuve d'une inventivité inouïe, à faire attention et à prendre soin à des choses auxquelles on prenait pas forcément tant attention que ça auparavant. Isabelle parlait de scénographie, je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi, faire attention à des choses qui, dans les mobilisations classiques, n'ont pas forcément beaucoup de place, comme l'humour, le soin aux autres, de la poésie, des rituels, des choses comme ça.
Et dans ces mouvements donc pacifistes, antimilitaristes, anti-nucléaires, plein d'inventivité, est-ce que, à partir de quand à peu près c'est arrivé ? Enfin, est-ce qu'il y avait la revendication féministe dès le départ entre ces femmes ? Et à partir de quand à peu près est arrivée la revendication écoféministe ?
Bah, en fait, dès le départ, c'est créé par des féministes, en fait. Donc, la Women's Pentagon Action a été... l'idée de la Women's Pentagon Action est venue d'un colloque, je crois, qui avait été organisé par des féministes plutôt du mouvement socialiste. Et donc, c'est des féministes ensemble qui ont décidé de cette action. Donc, il y a une base féministe. Ensuite, il y a plusieurs types de féministes qui sont à l'intérieur de ces mouvements. À Greenham, c'est moins une base féministe, mais très vite, ça devient un mouvement féministe. En tout cas, c'est un mouvement de femmes qui très vite décident que ce sera en non-mixité et qui est immédiatement féministe, mais là avec une grande variété de pratiques et de théories féministes, avec une place très importante des lesbiennes à chaque fois aussi, et donc c'est très ouvert sur plein de pratiques. C'est un peu ce qui spécifie par ailleurs le mouvement écoféministe, c'est son ouverture et le type de personnes auxquelles elle s'adresse en fait. D'accord. Mais il est féministe dès le départ. Voilà.
Super.
On va faire une petite pause musicale.
Alors, une petite pause musicale avec Ana Tijoux, sa chanson Rio Abajo, et qui vient de l'album Vengo, un album qu'on adore.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo. La lava creciente que recorre los campos de hielo. Soy la hija de la tierra. Soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante. Los rayos de sol, un arco iris penetrante. Soy dulce, soy salada. Soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo. Soy la promesa intacta. Soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura. Soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma. Soy la cascada que salta por catarata. La súbita regata de vida que nos retrata. Yo soy la piel de todos. Soy el copo de nieve que llora por tus ojos. Soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. puedes apresar, mi amor es demasiado enorme. No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas. Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme. No me encierran tus botellas, yo regalo agua. Desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje. Yo vengo a compartir vida en este viaje. No hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza. Le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje. Soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero. Soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Alors, vous êtes toujours sur Langue de Fronde, 106.3 FM, et dans notre émission sur l'écoféminisme. Donc, moi, je voulais bien revenir un petit peu sur cette figure dont on a parlé rapidement au début, Starhawk, dont, Isabelle, tu as réédité un des livres majeurs qui s'appelle « Rêver l'obscur, femme, magie et politique », et dont Émilie a fait la préface. Et cette incroyable, je ne sais même pas comment appeler ça, parce que c'est plus qu'une chronologie, c'est plus qu'une biographie, c'est une frise. Enfin, il faudrait le voir, la radio, c'est compliqué. Donc avec tout, plein de références de textes écoféministes et de textes aussi de science-fiction écoféministe. Donc voilà, je ne sais pas, Émilie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Starhawk plus précisément ?
Ouais. Donc Starhawk, le texte notamment que tu as réédité, c'est un des livres majeurs qu'elle a écrit. Ce n'est pas le seul, malheureusement, c'est le seul qui pour l'instant est publié en français. Après, il existe aussi pas mal d'articles en fait, d'elle qui ont été traduits, que tu trouves en accès libre sur Internet, sur voilà, d'autres parties de sa réflexion écoféministe. Peut-être que les deux choses, pour entrer dans son texte, il y aurait peut-être deux pistes qu'on pourrait ouvrir. La première, qui sera en lien avec le titre de ce texte, puisque on ne sait pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que aussi c'est un très beau titre qui est le suivant, à savoir Rêver l'obscur, qui est le titre origine.
Oui, Dreaming the Dark.
Je n'ai jamais su. Voilà, qui n'est pas celui qui avait été donné dans la première édition en langue française. Mais enfin, c'est celui qui est revenu et c'est une très bonne chose. Porte sur un point très important de sa réflexion écoféministe et qui est plus généralement... Enfin, il n'y a pas qu'elle, mais c'est elle qui en a notamment tellement, tellement bien parlé et qui l'a aussi tellement bien pratiqué, à savoir le fait de... Dans ce mouvement-là, contrairement à d'autres formes de mobilisation politique plus classiques, d'avoir, en raison même du type d'objet contre lequel elle luttait, qui était cette question nucléaire, d'essayer de travailler et de rendre visible et d'expliciter de manière collective les émotions que l'on pouvait ressentir vis-à-vis du monde dans son entier, et en particulier des émotions négatives. C'est ça dont il s'agit quand... quand on entend ce titre « Rêver l'obscur », ce qui peut paraître bizarre, ce peut paraître une sorte d'oxymore, en fait, le point qui est fait ici pour aller extrêmement vite, ça serait cette idée peut-être contre-intuitive dans un premier temps, mais pas tant que ça, qui serait de considérer qu'au lieu de dénier ces émotions négatives, au lieu d'essayer de faire comme si elles n'existaient pas, ce qui évidemment a toujours des effets, en bon pragmatique qu'elle est, ça serait au contraire d'essayer de travailler dessus de manière collective et que ça serait peut-être la seule façon d'espérer pouvoir les transformer en action politique et en quelque chose de relativement positif. Et c'est une des choses sur lesquelles elles ont, elles, et les autres personnes qui faisaient partie de son couvent et les autres personnes avec qui elle a milité plus largement, énormément travaillé à inventer, à fabriquer des pratiques autour de ces émotions qu'on peut tous ressentir, de peur, de tristesse, de terreur, de colère, etc. etc.
Isabelle, tu voulais nous lire quelques passages.
Alors là, pour le coup,
c'était pas de Starhawk.
Ouais, mais c'est pas la seule à en avoir parlé.
Oui, voilà, mais c'était sur les émotions.
C'est pour dire que justement, c'est une époque historique très particulière où il y a Reagan d'un côté qui est élu aux États-Unis, Thatcher de l'autre côté. C'est la course aux armements nucléaires. Donc la guerre froide. Donc il y a une vraie. On a du mal maintenant à se rendre compte. Enfin, sauf que maintenant, en ce moment, on s'en rend peut-être un peu plus compte, malheureusement. Mais il y a une vraie terreur, une vraie peur. En fait, dans la population par rapport à cette guerre qui existe et la course à l'armement. Tout ce qui est envoyé, des fusées dans les étoiles, etc. Enfin, tout ce côté. Donc il y a une vraie frayeur. Justement, une part de ces femmes partent de cette peur en disant bon ben voilà, en fait on est toutes terrorisées par ce qui se passe, et plutôt que de le vivre isolément, en fait on se rend compte en parlant les unes avec les autres qu'on est toutes habitées par ces mêmes angoisses, colères, etc. Donc voilà. Et du coup, à Greenham, le mouvement de Greenham Common, donc de cette longue occupation, part vraiment de la prise de conscience de plusieurs femmes entre elles, qu'elles sont habitées par les mêmes cauchemars, notamment. Donc, il y a un livre qu'elles ont écrit, qui est une sorte de livre de témoignages. Et ce livre de témoignages commence par un recueil de cauchemars, un recueil de peurs. Et parce que toutes, elles racontent avoir vécu des cauchemars où elles imaginent que tous les gens qu'elles aiment sont morts dans une bombe nucléaire, etc. Et donc, elles partent de là. Donc, je voulais juste lire quelques passages pour qu'on se rende compte de ces cauchemars et de ces peurs. Donc, je lis juste « La peur est le point de départ. Étant donné le terrible potentiel des armes nucléaires, il est absolument raisonnable d'avoir peur. » Une autre dit « Je n'arrive plus à imaginer le futur et je pense que c'est le résultat de la peur de la guerre. » Donc on voit comment elles sont aussi dans un empêchement sur l'imagination, sur comment on va vivre. Donc le futur n'existe plus à cause de cette peur et de la colère aussi. Une autre dit « Je pense que la peur de la guerre a augmenté ces deux dernières années et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui cela donne des cauchemars. » Voilà, donc c'était juste pour citer quelques phrases. Et c'est vrai qu'en ce moment, dans le contexte particulier où il y a des injonctions à ne pas avoir d'émotions, à ne pas avoir peur et à continuer, en gros, comme si de rien n'était, tout en maintenant, par contre, une injonction à la guerre, enfin, voilà. Donc on voit le rapprochement qu'on peut faire avec cette période et la place des émotions. D'un côté, donc justement, partir de ces émotions, notamment collectivement, pour en faire quelque chose. Et là, l'injonction qui est faite collectivement de ne pas avoir peur. Don't be afraid, ne pas avoir peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et du coup, là, vous êtes parti sur les émotions négatives, en fait, dans lesquelles s'ancrent ces mouvements. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, le fait de ne pas pouvoir imaginer le futur... dans tous les rituels qu'il y a dans ces mouvements, etc., et l'idée de créer des nouveaux possibles, en fait, de les inventer ensemble collectivement, je sais pas, et faire passer des émotions comme la joie, le rire, et je sais pas si vous voulez.
Oui, on va dire il y a deux moments pour elle, notamment quand elle décrit effectivement ces rituels liés aux émotions. Il y a ce moment de révèle obscur qui est, on pourrait dire, ce point de départ absolument indispensable pour commencer à ouvrir de manière sérieuse la question, justement, pas de manière irrationnelle et pas toutes ces bêtises qu'on entend toujours, mais d'une manière très sérieuse en prenant en compte la totalité du problème. Mais ensuite, effectivement, il y a toujours un deuxième moment aussi important que le premier, mais qui ne devient sérieux et important que si il y a eu le premier, on va dire, qui est ce moment, on va dire, constructif, où il s'agit de d'inventer, de rêver ensemble autre chose, où elle appelle ça qu'il faudrait avoir et inventer des visions, des nouvelles visions. Et en partant de cette idée très simple, en même temps très, très efficace, qui serait de dire que la culture dominante, finalement, on peut considérer qu'elle est constituée d'un ensemble de récits, d'un ensemble d'histoires, et que une des meilleures manières de lutter contre ces récits-là, c'est d'en proposer d'autres et de proposer des récits qui seraient, qui emmerderaient bien ces premiers récits, qui seraient bien inconfortables, qui seraient bien problématiques et qui seraient radicalement, radicalement différents.
C'est le moment où on pourrait partir sur une discussion sur la science-fiction écoféministe.
Mais tout à fait.
Ça, je sais pas. Tu veux nous
ça nous démange.
Ça nous démange un peu, mais alors là.
En tout cas, bon, on va pas. Voilà, c'est sûr que c'est pas. Ça s'explique très bien que cette activiste notamment est outre ses textes comme celui de Révéler l'obscur dans lequel elle insiste particulièrement sur cette dimension négative des émotions qui nous habitent dans ces mobilisations, qu'elle ait elle-même écrit un texte de science-fiction dans lequel, contrairement aux science-fictions non féministes et non écoféministes, qui sont souvent des science-fictions apocalyptiques, qui vont nous décrire un avenir extrêmement sombre, etc. Et les écoféministes ne sont pas du tout intéressés par ça, parce que c'est complètement débile. Enfin, ça serait intéressant d'avoir un avenir, pour le coup, mais d'essayer de le construire. Et que la science-fiction, enfin, le texte de science-fiction qu'elle a écrit, je crois qu'elle va en sortir un autre prochainement, eh bien, c'est un texte dans lequel elle essaye de proposer quelque chose qui marche. Mais simplement, voilà, il faut trouver les moyens, par la narration, par le détail des descriptions, de rendre crédible, littérairement et aussi politiquement, bien sûr, cette proposition d'impossible, pas complètement pourri.
Oui, non, je voulais juste rajouter dans le titre de Star Oak, c'est Révéler l'obscur, femme, magie, politique. Et la magie, justement, c'est ça, c'est comment faire advenir ces visions, comment collectivement faire advenir des visions. Donc, c'est vraiment un remède justement à la peur et la transformation de ces peurs en vision par la fiction, par la narration, par les émotions, par le partage, par tout un tas de techniques ensuite, de craft. Donc, c'est concret, faire advenir. Et en même temps, avoir une relation avec... faire des fictions, donc quelque chose qui a l'ordre avec aussi l'imaginaire et en même temps concret, c'est très concret quoi. Voilà.
Bon, je me demandais sur cette question de la magie rapidement, est-ce que vous pourriez développer un peu plus rapidement sur le lien du coup entre écoféminisme et spiritualité, une sorte de revalorisation du sacré et du sacré dans la nature d'une certaine façon et les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière ça.
Ouais. Alors y arriver de cette manière-là, c'est toujours dangereux, mais c'est une bonne chose que ça nous oblige à être vigilantes. À savoir qu'effectivement, une des questions qui se pose face à la situation dans laquelle elles étaient, c'était où trouver des ressources et où trouver des ressources pour psychologique, émotionnel, enfin, etc., pour pouvoir lutter contre le monde qu'on est en train de nous construire. Et on pourrait dire qu'elles ont très largement surpris leur monde en allant les chercher là où on n'allait pas du tout, où on les attendait pas du tout, pardon, à savoir notamment du côté, effectivement, de la spiritualité. Alors, on pourrait dire, je vais essayer d'aller très très vite, mais évidemment, la première réaction qu'on va avoir, c'est de dire, oui, évidemment, donc, on va aller du côté d'une sorte de refuge apolitique, etc. Ça n'a pas manqué, on leur est totalement tombé dessus, et ça a été notamment une des raisons, clairement, pour lesquelles l'écoféministe n'a jamais pu passer en France. Il y a une espèce de cordon sanitaire qui, jusqu'à présent, bloquait son entrée, parce que c'est juste pas possible de penser à quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, si on réarticule, vraiment je vais essayer d'aller vite, mais si on réarticule d'une part cette question de spiritualité avec une culture américaine dans laquelle tous les mouvements d'émancipation finalement ont été très largement articulés avec des formes religieuses ou des religions différentes, on se détend un tout petit peu et ça relativise dans un premier temps, dans le bon sens du terme, le poids qu'elles peuvent lui accorder. Et deuxième chose, évidemment, et surtout, c'est que c'est pas exactement n'importe laquelle de spiritualité, puisque c'est une spiritualité qui va être féministe et complètement contre toutes les grandes religions misogynes que nous connaissons bien. Et c'est de ce point de vue-là qu'elles vont d'une part l'inventer en reprenant ce mouvement Wicca qui est renaît dans les années 60 en Angleterre et que les écoféministes le reprennent mais dans une version vraiment féministe, et c'est une version dans laquelle elles vont ce qui les intéresse le plus, je crois, c'est un des biais par lequel elles vont effectivement chercher à trouver les ressources pour revaloriser notamment le corps des femmes, mais pas seulement, qui a été tant dénigré, dévalorisé, humilié, haï, etc., etc. À savoir, tout bêtement, pour le dire, et je termine juste là-dessus pour essayer d'être courte, que c'est pas, comme dit l'une d'entre elles, pas Starwalk, mais une autre qui s'appelle Carol Christ, c'est pas exactement anodin, symboliquement, ne serait-ce que symboliquement, que d'imaginer, pour l'ensemble de n'importe quelle, pour toute femme, d'imaginer symboliquement qu'il puisse y avoir une déesse, qu'il puisse y avoir pas seulement un dieu, c'est-à-dire un mec, ou en tout cas quelque chose qui relève du masculin. Évidemment, on sait le poids symbolique immense que ça peut avoir que de penser une divinité masculine. Mais alors pourquoi pas, évidemment, prendre simplement 2 minutes pour dire « Ah ben, effectivement, s'il y avait une déesse qui serait du côté féminin, ça peut un tout petit peu aussi... » Voilà, créer d'autres choses, faire bouger, déplacer, le rapport que l'on peut avoir à une certaine estime de soi, un certain rapport à une puissance féminine, etc. etc.
Oui, si j'ai 2 minutes pour rajouter, en fait, dans le mouvement dont je parlais tout à l'heure, Surrogate Hosers, qui est né à Santa Cruz. En fait, à Santa Cruz, il y avait un groupe anarcha-féministe qui a fait partie du mouvement antinucléaire qui s'appelait Love and Rage. Love, je suis nulle en anglais, donc love et rage. Un groupe anarcha, voilà, l'amour et rage. Un groupe anarcha féministe, anti-nucléaire, qui par ailleurs est composé aussi de Taïens. Donc, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas imaginer. Et dont c'est dans Santa Cruz dans les années 70. Et quand se crée dans les années 80 ce groupe Surrogate Others, où il va y avoir Donna Haraway, il va y avoir aussi plein d'autres femmes avec Donna Haraway. Marge France, qui est une ancienne communiste, beaucoup plus âgée, qui est une militante lesbienne très importante aux États-Unis, mais il va y avoir aussi sa compagne qui, elle, est quaker et donc est une activiste pacifiste quaker, qui est donc la compagne de March France, qui s'appelait Eleanor Engström. Il va y avoir aussi des féministes juives comme Dina Hurwitz. Donc ces femmes sont dans le même groupe affinitaire. Et il va y avoir une autre femme qui s'appelle Sharon Elsel et qui, elle, fait partie des groupes païens antinucléaires. Mieux encore, qui est un groupe de païens, de physiciens qui travaillent sur le nucléaire, quelque chose comme ça qu'on peut même pas imaginer. Donc les païens et d'autres aussi, les féministes juives, ont une place très 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 importante dans ces mouvements. Donc évidemment, nous en France, quand je dis nous, c'est la France, on a vraiment du mal à penser des mouvements qui soient à la fois politiques, féministes, mais aussi qui proviennent comme ça de plein de lieux, de religions différentes, et qui se mettent tout ensemble dans le même mouvement.
Voilà. Bah maintenant, je vous propose une petite musique pour essayer de remettre tout ça en place dans nos têtes avec le groupe Moriarty, Jay Walker, donc l'histoire d'une femme qui marche à côté des clous. Back from where the crow rains cold, she's letting down the doing what she's told, living another Walden. Back to where the cats are kings, she knows it by the letter. All those nights and all those mornings, running it down and under, there she goes, polka dot dress, barefoot on the cobblestones. Where she's at, let's take a guess. Jaywalking in the streets of Rome, she is like a hotline. You can call whether rain or shine, when it looks like nothing is bright. A few words with her voilà, sur FPP 106.3, dans notre émission Langue de Fronde, avec nos deux invités, Émilie H. et Isabelle Cambourakis. Et donc, on va maintenant passer un petit peu sur le lien entre écoféminisme et lutte actuelle. Donc, en quoi, je vais poser une question un peu large, puis après, on va repréciser un peu en quoi tous les mouvements qui ont eu lieu d'écoféminisme, donc en Angleterre, aux États-Unis, puis aussi ailleurs, donc on n'en a pas parlé, on en reparlera peut-être un petit peu, en quoi ça nous a aidé maintenant à faire aussi d'autres actions, et quelles sont-elles déjà, et voilà. Et est-ce que vous êtes aussi impliquée dans des actions qui ont lien un peu avec l'écoféminisme ?
Alors, c'est vrai que toutes les mobilisations dont on a un peu parlé tout à l'heure, et on a dit très largement que c'était un mouvement qui a eu lieu pendant les années 80, jusqu'à la fin des années 90, plutôt jusqu'à la fin des années 80, ça a duré vraiment une grosse décennie. Après, il y a eu certains mouvements, notamment celui dont parlait Isabelle de Greenham Common, qui a duré une vingtaine d'années, mais c'est assez exceptionnel. Tout l'ensemble des mobilisations n'ont pas duré autant de temps, et à un moment donné, effectivement, ça a en partie disparu, notamment lié à la fin de la guerre froide, lié à la fin de la menace telle qu'elle existait à l'époque de la guerre nucléaire. Mais les écoféministes, ce mouvement-là, c'est en partie arrêté, mais pas complètement. Notamment, tout à l'heure, je disais, Star Oak, par exemple, et d'autres écoféministes sont très largement nourris et fait partie, par exemple, du mouvement altermondialiste, qui était un deuxième moment très fort dans le... On pourrait dire qu'il s'est vraiment nourri, inspiré de l'écoféminisme et qui aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train à nouveau de reprendre une troisième vie? C'est possible, même si, on peut pas véritablement, je crois pas à ma connaissance parler d'un vrai mouvement qui, ça va venir peut-être, mais je crois pas que ce soit encore le cas des écoféministes liés au climat, bien sûr. Alors, Star Oak est toujours là, et Star Oak, parmi d'autres, est une grande militante sur le climat, mais je connais pas de grande mobilisation qui aujourd'hui s'appellerait écoféministe sur cette question-là. Maintenant, est-ce qu'on s'en nourrit ou est-ce que certaines personnes s'en nourrissent et peuvent s'en inspirer? Oui, en effet, oui, tout à fait.
Du coup, on n'a pas eu le temps de parler des mouvements de justice environnementale aussi aux États-Unis et ailleurs, et des mouvements qui ont été aussi qualifiés d'écoféminisme dans les Suds en général. Et du coup, les mouvements de justice environnementale, on les voit très présents, notamment on les a vus très présents là à la COP21. Enfin, on a rencontré, du coup, c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes.
Tu peux nous préciser qu'est-ce que tu entends par mouvement de justice environnementale?
Alors, peut-être qu'Emilie, qui a plus travaillé sur les mouvements de justice environnementaux, pourrait plus préciser exactement pour pas que je me trompe dans ma définition.
C'est pareil, c'est un mouvement qui est né de manière absolument quasi contemporaine en fait à l'écoféminisme, qui se disait pas du tout, qui se disait pas écoféministe, qui se disait pas féministe,
qui se disait même pas
vraiment écologiste. C'est tout l'intérêt de ce mouvement-là, mais c'est très intéressant pour autant. Qui lui s'est véritablement articulé autour de la question du racisme environnemental aux États-Unis, même si, ce qui est dommage, à mon sens, très largement, mais que les personnes qui s'intéressent beaucoup à ce mouvement-là oublient très largement de préciser que c'était principalement des femmes qui en faisaient partie. Mais voilà, les leaders étaient des mecs, donc on peut oublier que c'était des nanas. Que c'était des nanas, donc, souvent black, souvent latino. Après, il y avait aussi, pas que des nanas black et latino, mais c'était la grande majorité. Et qui se sont à chaque fois mobilisées autour de grands scandales sanitaires qui ont égrené, malheureusement, et c'est certainement pas du tout fini. La décennie des années 80, des années 90. Aux États-Unis, liés justement, et se sont rendus compte au fur et à mesure de ces scandales que étaient liées justement les questions de pollution, d'environnement pas propre, d'environnement abîmé, empoisonné, et le lieu où habitaient les populations les plus défavorisées.
Et donc Isabelle, je te redonne la parole maintenant qu'on a eu la définition des mouvements.
Oui, non, juste pour revenir sur les mouvements écoféministes du Sud, peut-être quelques minutes. On connaît essentiellement Vandana Shiva, qui en France a beaucoup parlé des mouvements écoféministes du Sud. Alors juste, elle se réfère beaucoup notamment à un mouvement qui s'appelle le SHIPCO Movement, qui là, pour le coup, s'est passé dans les années 70. Donc là, je suis désolée, je reviens encore en arrière. Donc il s'est passé dans les années 70, où des femmes dans une région de l'Himalaya a protégé les arbres parce que des compagnies privées faisaient de la déforestation pour pouvoir mettre des fermes, enfin tout un tas
des
de
entrepôts
trucs, des, voilà tout un tas de
des entrepôts pour un grand magasin
par exemple. Il y avait plusieurs choses, en tout cas c'était des compagnies privées qui venaient déforester, enfin l'État revendait les forêts et ensuite les compagnies venaient, et donc elle protégeait les arbres en faisant le tour, en les encerclant, donc en les embrassant. Donc c'était un mouvement qui était très, très symbolique, très très fort. Ces femmes l'ont fait essentiellement parce qu'elles avaient besoin de la forêt pour dans leur vie quotidienne, pour aller chercher du bois, etc. Donc c'était vraiment pour des raisons concrètes et matérielles. Et aussi c'était dans des sociétés très très patriarcales où aussi ce mouvement leur a permis d'avoir une place dans la société. Donc, mais elle se définissait pas forcément comme étant ni féministe ni écologique. Mais par contre, ça a été repris. Enfin, c'est comme ça que l'a présenté ensuite Vandana Shiva. Et c'est valable pour énormément de mouvements en fait dans le monde où des femmes, de par leur position matérielle, en fait, sont amenées très 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 régulièrement à défendre des matières premières, l'eau, la pureté des eaux, etc. Bon, voilà, c'est tout un. On n'en a pas parlé ici parce que justement, on parlait vraiment du mouvement écoféministe américain qui se définissait vraiment en tant que tel. Donc, ces mouvements de justice environnementale, ils continuent, on va dire, malgré tout le temps, là, partout, là où il y a des pollutions. Des pollutions, des nappes, etc. Il y a des gens qui s'y opposent, et notamment énormément de femmes. En France, il n'y a pas de mouvement. Enfin, c'est très difficile de. Il n'y a ni vraiment d'écoféminisme, non, il n'y en a vraiment jamais eu, ni vraiment de mouvement de justice environnementale pour lequel on pouvait dire « Ah tiens, ça c'est un mouvement de justice environnementale ». Donc on est un petit peu orphelin de ce type de mouvement en France. Voilà, donc on peut pas dire, est-ce qu'il y a une actualité de l'écoféminisme en France, ou il y a une actualité du mouvement de justice environnementale en France? Il y en a pas, en tout cas on l'a pas pensé en ces termes-là. Mais maintenant, je pense qu'effectivement, justement avec la rencontre, notamment des acteurs, actrices, des mouvements de justice environnementale, des mouvements grassroots, notamment américains, mais aussi des Suds, on prend en compte que en fait, en France aussi, il y aurait besoin, où il y a des luttes environnementales. On sait que par exemple, le 93 est un département qui est plus touché que d'autres par exemple, la canicule, quand il y a la canicule, par la pollution, etc. Donc évidemment en France comme ailleurs, ce sont comme d'habitude les plus pauvres et les populations racisées qui sont victimes des pollutions, des réchauffements climatiques, etc. Donc pour le moment il n'y a pas de lutte extampillée lutte justice environnementale, en tout cas je les connais pas si c'est le cas, mais par contre il y a, je pense, un début de, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on, là on avait le nez dedans un petit peu avec la COP21, donc on a un peu la déformation de la réalité, mais en tout cas là on sent que malgré tout il se passe quand même des choses aussi bien autour de cet écoféminisme, parce que malgré tout là ces derniers mois il y a eu des conférences sur l'écoféminisme où a participé Émilie, par exemple, et il y a eu beaucoup, beaucoup de monde à chaque fois qu'ils sont venus. Donc, il y a quand même un intérêt pour ces thématiques. Et évidemment, puisque l'écologie ça va être un thème de plus en plus présent dans nos préoccupations politiques.
Ou pas.
On dit, arrête.
Il faudrait. Il y a vraiment une nécessité, je pense, même s'il n'y a pas une actualité des luttes. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du Toxic Tour?
On n'a pas le temps.
Ah, okay.
On se dira peut-être un tout petit mot, on se fait peut-être le petit coup de gueule maintenant et on voit
et
combien
on
a le temps juste après.
Petite émission, ça marche. Alors, coup de langue.
À tous les Robocop 21. À tous les Robocop 21, à toutes celles et ceux qui ne veulent rien entendre, assis sur des sacs de privilèges, de racisme, d'égoïsme aveuglant et de déni. Nous avons peur et nous sommes en colère.
Contre cet état de guerre,
cet état d'urgence,
cet état de peur,
cet état policier,
contre cet état de statu quo
qui nous donne aujourd'hui une planète en bien mauvais état.
Je suis en colère.
Je suis en colère face aux violences policières qui balayent toujours plus le territoire, assignent, brutalisent, tuent. En colère face aux couleurs de ce pays bleu, devant ces morts ici et là-bas, conséquences de choix et décisions perfides, hypocrites. Et j'ai peur.
J'ai peur. Ce terrible sentiment qu'on devrait ranger au placard, soit parce qu'il est déraisonnable, soit parce qu'il est le joujou des mesures sécuritaires. Et pourtant, elle est bien là, dans mon ventre. Avoir ce monde tourné en rond, par rond, se regarder le nombril de l'économie et de la finance. Et tous ces arbres qui ne respirent plus, ces millimètres d'eau qui grimpent, ces poissons qui sortent de l'eau.
à tous les Robocop 21. Nous disons que nous continuerons d'avoir peur et que nous ne la mettrons pas au placard. Nous continuerons d'être en colère. J'ai peur.
J'ai peur et je compte tous ces chiffres qui nous tombent dessus, tellement nombreux qu'on ne sait plus compter. Les entendre encore, jusqu'à en perdre mes repères. Sur le marché mondial de l'armement, la France a 74 pays clients. Vente en majorité en Asie et Moyen-Orient, 5e exportateur mondial d'armement. J'ai peur.
J'ai peur, mais je ne renoncerai pas. Parce que je veux continuer de ressentir, de réfléchir et de me préoccuper de la réalité de cette vie, de cette terre, des injustices et des luttes. Me préoccuper de ce que je vis aujourd'hui et imaginer ce qu'on vivra demain.
À tous les Robocop 21, nous continuerons de rêver, de lutter, de nous réunir, de nous battre, d'espérer, d'avancer, de crier.
Malgré cet état de guerre,
cet état d'urgence,
cet état de peur,
cet état policier,
malgré cet état de statu quo
qui nous donne aujourd'hui une planète en bien mauvais état.
Vous n'achèterez pas la paix sociale.
Et parce que j'ai peur et que je suis en colère, je prête toujours plus attention aux détails, à ces actes ordinaires et banalisés. Aux barrières, aux contrôles arbitraires dans le métro et dans la rue. Aux récifs de corail qui se dégradent, à l'écorce des arbres qu'on ne touche plus. Au fait de porter un simple pull au début du mois de décembre, comme au fait de montrer son sac à tout va. N'attendons pas le bouquet final pour quitter la salle de spectacle.
À tous les Robocop 21, nous hurlons! Quelques mots maintenant de Marie Desplechin, de son texte « Aux enfants », extrait du livre-recueil « Du souffle dans les mots » paru en novembre 2015.
Ne vous laissez pas avoir par les petits arrangements qu'il faudrait consentir pour entrer dans l'âge adulte.
Arrête de rêver, trouve un emploi, prends un crédit, cherche un loisir, cherche pas à comprendre, laisse faire ceux qui savent et sois raisonnable.
Apprenez à réfléchir, apprenez à désobéir, apprenez à inventer des cabanes. Donnez-vous du mal pour cela, et rappelez-vous que pour arriver à ce pique-nique au bord de la rivière, il nous faudra d'abord sauver les amis, le chien, la rivière, et même les pommes de terre. Mais alors ? Alors quel bonheur ce sera de nous retrouver entre amis sur la terre ! Quelle bonne vie nous ferons !
Et donc on arrive malheureusement à la fin de notre émission avec beaucoup de frustration parce qu'on n'a pas pu parler de plein de choses dont on avait envie de parler. Et je vais peut-être proposer à nos invités de conclure. Émilie.
Alors très rapidement.
Très rapidement.
disons qu'on va, je prendrai la reparution de ce texte de Starhawk comme le défi pour plein de gens comme nous de cette fois-ci réussir à introduire d'une manière intelligente, honnête et complète ce mouvement et la force politique qui peut engendrer et pas de la manière coupée et tellement bête qu'il a été introduit il y a une vingtaine d'années malheureusement en France, qu'on s'en débarrasse et qu'on puisse enfin s'en inspirer théoriquement et politiquement.
Isabelle ?
Oui, déjà, je voulais dire que j'avais beaucoup aimé ce qu'on vient d'entendre. Donc là, c'est un geste écoféministe fort. Je pense qu'on assiste à la naissance de l'écoféminisme dans cette français, dans cette radio. Donc moi, je trouve que c'est... effectivement, il est très important de pouvoir s'inspirer d'actions qui ont déjà, qui ont eu lieu, mais qu'on ne connaît pas du tout, et qui ouvrent de nouveaux horizons et qui nous obligent à penser autrement les luttes, la relation à l'environnement, la relation au collectif. Il y a fort à faire en termes de traduction, parce qu'il y a quand même énormément de textes écoféministes qui n'ont jamais été traduits. Mais
d'ailleurs, vous y travaillez.
D'ailleurs, nous
y
travaillons.
Mais ce
petit détour systématique par les États-Unis qu'on est obligé de faire, j'espère que aussi qu'en France, il va y avoir d'autres formes différentes de relations entre l'écologie et le féminisme. Tout est un peu à inventer sans se restreindre. Enfin, c'est un appel aussi à une grande liberté par rapport à ça. Et voilà.
Ouais, merci beaucoup à toutes. On est super stressées. Restez avec nous sur FPP avec l'écho de Palestine. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
y a urgence, la terre tremble. Et l'homme se divertit tout fièrement. Jusqu'à ce que la somme vertige. Un cycle d'un temps, la matrice en somme hyperfine nous perce de roman. Pour nous endormir hyper éternel présent. Alors remercie les restes, la dernière oppression. Plus grande que tous ces vestiges. Juste à maison, nous rêver que de prestige. Prisme de la raison, ton royaume est devenu presque. On ne peut s'échapper, attaché comme une presqu'île. Le respite à devenir humain, la vie nous destine. On les voit s'acharner sur les plus pauvres vestiges. Et des domestiques, tant que sur nous ces lois, ce site collectif, on s'est trop détruit, même pire, allez leur dire qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. La terre tremble, va-t-elle atteindre ses limites, ouais. Y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Partout la haine et la reine, partout elle sème la peine. Et qu'il y a urgence, y'a urgence, y'a urgence, y'a urgence. Canon sur la tempe, l'être humain se suicide, ouais. Y'a urgence, 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 y'a urgence. C'est ça les tabous ici, la folie est partout. Toutes les idées nouvelles, la société désapprouve. Normal qu'on pète les plombs, génération née à genoux, on ne sait.